Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant dans RFI Soir. Et c'est avec vous, Jean-Philippe Dubrulle. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur adjoint des études politiques de l'IFOP, le plus vieil institut de sondage français. Alors, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient fait réagir la classe politique française. 188 morts côté palestinien, 10 du côté israélien. Le secrétaire général de l'ONU qui met en garde contre le risque d'une crise régionale qui peut devenir incontrôlable. Antonio Guterres qui appelle à un arrêt immédiat des violences. Le commentaire de la présidente du Parti Libre, ancienne ministre LR.
Il faut que les Palestiniens sortent de l'emprise du Hamas, qu'ils disent non au terrorisme, et il faut aussi que le droit international soit pleinement respecté. Je suis très soucieuse sur Jérusalem, que le statu quo historique soit maintenu. Jérusalem n'est pas une capitale comme les autres, et vous le savez très bien, il y a des accords de droit international qui aujourd'hui permettent la cohabitation pacifique de l'ensemble de la zone.
C'était Valérie Pécresse chez nos confrères de Radio J. Et puis ce que dit le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale au grand jury RTL.
Tout doit être fait pour empêcher l'escalade. Le président de la République a immédiatement appelé le président de l'autorité palestinienne. Il a ensuite appelé le Premier ministre pour tenter d'agir et de faire œuvre de médiation et d'apaiser les esprits. Nous devons tout faire.
Et concrètement, après, on avance comment ?
Ben vous savez, c'est assez simple, ça s'appelle la diplomatie. La diplomatie, elle est faite de paroles de lien. Elle n'est pas faite de menaces et encore moins d'interventions militaires.
Hier, des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de France. À Paris, le rassemblement était toutefois interdit. La police est donc intervenue pour disperser les manifestants. Alors cette interdiction a été critiquée. Y a-t-il eu excès de prudence de la part des autorités ? Clément Beaune sur Europe 1 ce matin, c'est le secrétaire d'État chargé des affaires européennes à propos donc des violences israélo-palestiniennes.
Cela peut être d'une certaine façon importé sur le territoire national dans des manifestations. Et donc, le ministre de l'Intérieur avait demandé au préfet d'être très vigilant. Je crois qu'il a parfaitement bien fait. Et on sait ce qui s'est passé dans des cas précédents, en 2014 notamment, quand il y avait eu un épisode déjà très dur au Proche-Orient, très meurtrier. Il y avait eu des manifestations, plus souvent autorisées, qui avaient donné lieu aussi à des débordements. Donc, il n'y a pas, malheureusement, de remède parfait.
Jean-Philippe Dubrulle de l'IFOP, cette manifestation interdite à Paris pose la question de la liberté d'expression, ce qui renvoie à la loi sur la sécurité qui avait fait polémique récemment.
Alors tout à fait, la loi sécurité globale, hein, il faut se projeter quelques mois, quelques semaines en arrière, avait certes fait polémique, mais paradoxalement, en quelque sorte, il faut avouer que dans l'opinion, dans les mesures, dans les enquêtes d'opinion, eh bien, on n'enregistrait pas d'opposition marquée face à cette loi sécurité globale, et notamment son volet le plus controversé sur le fait qu'elle pouvait empêcher la captation d'images lors des manifestations et des opérations de police. Donc, ce qu'on constate de manière générale, depuis quelques années, c'est un certain détachement des Français à l'égard de la problématique des libertés individuelles. C'est un détachement d'ailleurs qui est renforcé par la constance de la menace terroriste et puis des faits divers qui émaillent l'actualité, qui font finalement que les Français, en tout cas en moyenne, sont assez détachés des critiques qui peuvent surgir à l'endroit de contraintes ou de limitations des libertés individuelles.
On vient de l'entendre dans la bouche d'un membre du gouvernement. La France s'est exprimée sur la crise en cours au Proche-Orient, mais sans se faire trop d'illusions, car ce sont les États-Unis qui donnent le là. Au Liban voisin, le président de la République voulait également imprimer sa marque. Ce fut sans grand succès. Hein.
Ah oui, tout à fait. On se souvient de l'explosion du port de Beyrouth. On se souvient de la responsabilité qui a été mise sur le dos du gouvernement libanais et de l'intervention d'Emmanuel Macron pour prendre à ce problème-là à bras le corps. Une intervention d'ailleurs qui lui avait valu une embellie dans certains sondages vis-à-vis de sa carrure internationale. Mais depuis, pas beaucoup de nouvelles. Pas beaucoup de nouvelles parce que le dossier n'avance pas, évidemment. Mais voilà, pas de nouvelles aussi parce que depuis, évidemment, il y a la crise sanitaire qui a repris le devant de la scène dans nos frontières.
Ce qui veut dire que pour imprimer au niveau diplomatique, il reste à Emmanuel Macron la présidence de l'Europe. Ce sera à partir du 1er janvier prochain. Alors, Jean-Philippe Dubrulle, est-ce que ce sera un avantage ou un handicap dans l'hypothèse où il se représenterait à la présidentielle ? Avantage parce que ça lui donnerait une statue internationale, handicap parce que s'il y a une campagne présidentielle à mener, c'est autant de moins passé à l'étranger.
Alors tout à fait, c'est très difficile et je vais vous dire, vous parlez d'un avantage. L'avantage, c'est celui que confère la stature que confère le fait de s'occuper des problématiques internationales. Or, Emmanuel Macron, en tant que président sortant, a déjà cet avantage. Ce serait plutôt un candidat de chercher à se crédibiliser à l'international. Donc là, le gain semble faible alors que le risque semble important puisque il y a deux risques. Le premier aussi, c'est de sembler privilégier l'international au détriment des affaires intérieures en pleine campagne présidentielle, où on parlera finalement de la société de la France qu'on veut pour le prochain quinquennat. Et puis l'autre écueil majeur de s'investir sur la scène internationale à quelques semaines du vote, c'est d'échouer, tout simplement, et de montrer finalement une certaine incapacité à peser sur l'international et à se disqualifier en tant que figure présidentielle.
La France qui prendra donc la présidence de l'Union européenne pour 6 mois à partir du 1er janvier prochain. Jean-Philippe Dubrulle, directeur adjoint des études politiques à l'IFOP. Cet après-midi, le Rassemblement national a dénoncé une manœuvre politique du pouvoir après la sortie dans le journal du dimanche d'un rapport de police lequel synthétise l'enquête qui vaut à Marine Le Pen d'être mise en examen depuis 2018 pour des soupçons d'emploi fictif d'assistant d'eurodéputé RN. Valérie Pécresse, qui se représente pour la région Île-de-France et que les sondages donnent devant la liste du RN, réagit ainsi.
Ça en dit long sur le cynisme et les méthodes du Rassemblement national.
Ça disqualifie ou pas ?
Et sur ces méthodes et sur cette affaire qui est tout à fait scandaleuse. Mais moi, je voudrais aller sur le fond. Le Rassemblement national ou le Front national, c'est comme dans le chaperon rouge. C'est le loup qui se déguise en grand-mère. Et donc, on a Madame Le Pen et qui essaye de dédiaboliser son parti. Mais si on ouvre les placards, qu'est-ce qu'on retrouve ? Jean-François Jalques, sur la liste de Monsieur Bardella aux européennes, Jean-François Jalques, qui a tenu en 2000 des propos négationnistes sur les chambres à gaz. On retrouve Axel Lousteau, qui était assis à côté de Jordan Bardella pendant 6 ans au Conseil régional. Axel Lousteau, ami de Monsieur Dieudonné, qui, lorsque nous baptisons l'hémicycle Simone Veil, l'hémicycle du Conseil régional du nom de Simone Veil, sort de l'hémicycle pour ne pas avoir à rendre hommage.
Le Rassemblement national qui focalise toutes les attentions à 1 mois des élections régionales, avec notamment ce qui se passe en région PACA, où pour contrer sa liste, LR et la REM n'en finissent pas de discuter pour s'allier. Un vrai feuilleton qui dure depuis 3 semaines maintenant, que l'on suit d'ailleurs dans Dimanche politique. Finalement, Renaud Muselier, de LR, aura sur sa liste des Républiques en marche. Et donc, pas de liste en tant que telle, Sophie Cluzel se contentant de soutenir l'actuel président de la région. Faut suivre. Le président du groupe à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, qui reproche aux Républicains d'être prêts à sacrifier cette région, c'était sur RTL ce matin.
Pour ce qui nous concerne, il y a une constance. Pour ce qui me concerne, ça fait des semaines que je tends la main et que je dis qu'il faut construire un projet. Moi, je suis constant là-dessus. Par contre, j'ai vu du côté des LR une violence quand même assez folle qui met sur le même plan le Front National et Emmanuel Macron et La République En Marche. Il y a aujourd'hui dans ce pays et chez les LR deux droites irréconciliables. Une qui est totalement tournée vers le Front National et qui commet cette erreur politique, républicaine, de considérer qu'il faut mettre au même niveau.
Autre voix de La République En Marche, Clément Beaune, sur Europe 1 ce matin, c'est le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
Ce n'est pas nous qui avons fait qu'il y a certains qui sont dans le camp républicain, justement. Clairement, je pense à M. Estrosi, M. Falco, ou d'autres qui sont restés chez les Républicains, heureusement, et un camp de l'ambiguïté, voire de la honte, qui préfère résolument, parfois c'est exprimé explicitement, le Rassemblement national au parti républicain. Entre les sensibilités de la majorité présidentielle, En Marche en particulier, et des gens de bonne volonté, des Républicains, je crois que c'est au contraire une nécessité démocratique absolue pour combattre le Rassemblement national, et moi je serai de ce combat.
Jean-Philippe Dubrulle de l'IFOP, le RN est résolument l'épouvantail de ces élections régionales, comme d'ailleurs il avait été au second tour de la dernière élection présidentielle.
Tout à fait. Ce duel En Marche versus le Rassemblement national, ce duel issu du second tour de l'élection présidentielle, eh bien, il est installé. Depuis le début du quinquennat, on a beau reposer cette question d'un éventuel second tour. Les sondeurs ne le font pas exprès, ne le cherchent pas. C'est toujours ce second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen qui s'impose. Je reviens toutefois sur ces problématiques d'alliance entre les Républicains et la République En Marche. Ce qui est assez cocasse dans toutes ces affaires, c'est que finalement, au niveau électoral, LR est très largement devant dans ces élections locales, les régionales en l'occurrence. LR est très largement devant les listes La République En Marche qui sont gravement à la peine. Et donc c'est assez amusant de voir que comparativement à leur potentiel électoral qui est faible, ces listes En Marche finalement vont empoisonner l'élection des Républicains en les questionnant sur leur ligne.
Oui, en tout cas, le parti LR est sérieusement secoué par cette affaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, cette question de liste commune LR-REM. D'où ce commentaire de Christophe Castaner, ancien ministre d'Emmanuel Macron.
Il n'y a aucune ligne claire chez les Républicains depuis plusieurs années. Et ça n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, ça n'est pas notre faute si Christian Jacob pilote un bateau ivre qui n'a plus de ligne politique.
Les Républicains qui se trouvent entre le RN et La République En Marche sur l'échiquier politique, qu'en pensent les Français? Eh bien, il y a un sondage qui est paru aujourd'hui, sondage Ipsos pour France Info et Le Parisien. 52% des sondés se disent favorables à une alliance entre les listes REM et LR au second tour dans les régions où le RN est en position de l'emporter, Jean-Philippe Dubrulle.
Oui, tout à fait. Il y a une certaine, finalement, dans l'opinion, une certaine proximité, voire une interchangeabilité, si j'ose dire, entre les Républicains et La République En Marche, pour une raison d'ailleurs très simple, qui est que le parti présidentiel a littéralement siphonné l'électorat des Républicains au cours des dernières années et des dernières élections. Donc, cette proximité entre les deux partis n'a rien de surprenant.
Et il en ressort également de ce sondage que près d'un sympathisant LR sur deux serait favorable à un accord avec le RN de Marine Le Pen pour empêcher une victoire de la gauche dans une région. Donc il faut mettre en perspective l'un et l'autre en quelques mots.
Oui, tout à fait. Finalement, la question, on peut la résumer ainsi. Pour un électeur des Républicains, quel est l'adversaire le plus grave, le plus sensible? Est-ce que c'est le Rassemblement National ou est-ce que c'est la gauche? On voit que les avis sont partagés.
Merci pour ces analyses et commentaires. Jean-Philippe Dubrulle, directeur adjoint des études politiques à l'IFOP. C'était Dimanche Politique sur RFI.